Rien ne pourrait égaler le Seigneur lui-même. Même les gens les plus renommés, ceux que nous connaissons dans notre époque ou l'époque passée, ne peuvent égaler le Seigneur. Le Seigneur est bon. Le Seigneur est amour.
Amen.
Le Seigneur est digne de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance, la magnificence.
Amen.
Parce que tout qui existe, tout ce qui existe, a été créé par lui et pour lui. C'est pourquoi
Amen.
il mérite que nous puissions ensemble le louer. Mais écoutez ce psaume qui nous introduit dans un moment de louange à notre Dieu. Le psaume 105. Voilà ce qu'il dit. Louez l'Éternel. Invoquez son nom. Faites connaître parmi le peuple ses hauts faits. Chantez, chantez en son honneur. Parlez de toutes ses merveilles. Glorifiez-vous de son saint nom. Le cœur de ceux qui cherchent l'Éternel se réjouisse. Ayez recours à l'Éternel et à son appui. Cherchez continuellement sa face. Souvenez-vous des prodiges qu'il a faits, de ses miracles et des jugements de sa bouche. Hérité d'Abraham, son serviteur, enfant de Jacob, ses élus, l'Éternel est notre Dieu. Ses jugements s'exercent sur toute la terre. Il se rappelle à toujours son alliance. Ses promesses pour 1000 générations. L'alliance qu'il a traitée avec Abraham et le serment qu'il a fait à Isaac, il a érigé pour Jacob en loi, pour Israël en alliance éternelle. On pouvait continuer avec le texte, mais regardez ici. Faites connaître parmi le peuple ces hauts faits. Dieu n'a-t-il pas fait de hauts faits dans vos vies? Le Seigneur nous demande de faire connaître nos hauts faits au peuple. Et le texte nous invite, n'est-ce pas, à chanter, chanter son honneur. Le texte nous invite à parler de toutes ces merveilles. Je crois que le Seigneur a fait des merveilles dans vos vies. Comme ce matin, nous venons d'apprendre, n'est-ce pas, la bonne nouvelle depuis vendredi que le Seigneur a faite dans la maison de notre frère. Ce sont des merveilles. Un enfant qui vient au monde, n'est-ce pas? C'est un miracle. Nous pouvons louer. Il y a des raisons pour lesquelles nous pouvons louer le Seigneur. La vie qu'il nous a donnée. Mes frères, regardez, nous nous étions endormis hier. Je ne sais pas à quelle heure vous étiez endormis. Ce matin, nous nous réveillons. C'est un miracle. Et ce sont des merveilles de Dieu. Vous avez été à la mer. La mer ne vous a pas emporté. Vous avez joué dans le sable. Vous êtes revenu. Vous pouvez louer Dieu pour ça aussi. Le Seigneur vous a conduit d'ici jusqu'à la mer. Vous êtes revenu. C'est un sujet de joie. Un sujet pour lequel on peut louer Dieu. Le matin, nous nous levons pour aller au travail. On prend des trains, on prend des bus, mais on revient le soir. Ce sont des merveilles de Dieu. Nous pouvons louer Dieu pour cela. Et puis, regardez, glorifiez-vous de son saint nom. Glorifiez-vous, vous. Vous devez vous glorifier. Mais pas de vous-même, mais du nom de l'Éternel.
Amen.
Vous devez être fier de l'Éternel. Comme un enfant qui se vante d'avoir des parents, n'est-ce pas, qui lui donnent tout. Nous devons nous glorifier de l'Éternel, notre Dieu. Glorifiez-vous de son saint nom. Que le cœur de ceux qui cherchent l'Éternel se réjouisse. On ne dit pas que le cœur de ceux qui cherchent l'Éternel soit dans n'est-ce pas, soit dans des plaintes. Mais qu'ils se réjouissent. Et le verset 4, Ayez recours à l'Éternel et à son appui. Cherchez continuellement sa face. On ne nous demande pas d'avoir des appuis dans des choses de ce monde. Dans nos assurances, notre argent, nos ceci, cela, non. Nous avons vu, nous sommes en train de vivre avec vous, que si nous mettons confiance dans des choses de ce jour, de ce monde, nous pouvons être, n'est-ce pas, désillusionnés. Mettons notre confiance, ayons notre confiance au Seigneur. Ayez recours à l'Éternel et à son appui. Notre recours, nous devons le chercher dans le Seigneur, pas dans les hommes, pas dans je ne sais pas qui. Les hommes peuvent nous dire, attendez, je vais m'occuper de vous. Et ils ne feront pas. Mais le Seigneur lui fait ce qu'il promet. Cherchez continuellement sa face. Nous allons prier le Seigneur qui nous a donné, qui nous donne le soleil. Nous sommes en train de dire, ah, beaucoup de chaleur maintenant, mais il y aura beaucoup de froid bientôt. Nous allons aussi nous plaindre. Prions donc le Seigneur, bénissons son nom, glorifions-le, parce qu'il est le Dieu de Dieu. Nous bénissons ton nom, toi notre Dieu tout-puissant. Toi, le Dieu qui ne dort ni ne sommeille, toi, le Dieu qui nous a donné la vie, toi qui es capable de retirer cette vie, nous nous approchons de toi parce que tu es bon, miséricordieux. Nous voulons dire tes hauts faits, toi qui nous accordes la paix, même au travers de moments difficiles comme celui que nous traversons. Toi qui nous accordes l'assurance de compter sur toi, là où le monde tremble. Toi, Seigneur, qui nous donne la joie dans des moments difficiles. Tu nous rassures que tu es à nos côtés. Nous voulons te bénir, te louer, parce que tu n'es pas le Dieu lointain. Tu es le Dieu qui est avec nous, en nous, à côté de nous, qui marche devant nous. Tu es le Dieu qui nous parle. Nous te sommes reconnaissants, Seigneur. Nous voulons te confier nos vies. Te confier ce monde, te confier l'avenir du monde, parce que l'avenir du monde est entre tes mains. Nous voulons, notre Père, notre Dieu, que toi, tu nous donnes la grâce de pouvoir te témoigner, de dire tes hauts faits auprès de nos proches, pour qu'ils entendent ce que toi, tu as fait pour nous, et qu'ils réalisent que tu es le Dieu aussi qui leur donne la vie. Tu es le Dieu qui leur donne aussi le mouvement. Tu es le Dieu qui leur donne l'être. Nous voulons, Seigneur, que tu interviennes dans nos vies par ton esprit pour que nous puissions vraiment être fiers de ton saint nom. Parce que tu es le Dieu qui opère des signes de prodiges. Nous te sommes reconnaissants. Nous voulons être reconnaissants pour ces moyens que tu nous donnes, que nous gardions la communion les uns les autres. Nous te rendons gloire et louange, parce que tu es le Dieu qui nous protège encore une fois. Et merci, parce que nous pouvons garder la communion les uns les autres et garder la communion avec toi. Aide-nous, Seigneur, à plonger nos regards dans ta parole, pour que nous puissions connaître et faire ta volonté. Nous te bénissons au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre frère qui vit et qui règne éternellement. Amen.
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 Sans plus tarder, je passe la parole à mon frère pendant que le réseau est encore stable.
Merci. Voilà, je vous invite à lire dans l'Évangile de Luc, chapitre 8, nous lirons juste deux versets. Évangile de Luc, chapitre 8. Tout le monde m'entend bien?
Oui, c'est bien.
Luc, chapitre 8, le verset 9 et 10. Donc, Jésus, après avoir raconté cette parabole sur les semeurs, avec les quatre différents terrains. Après, ses disciples, donc, vont lui demander la signification de cette parabole. Donc, verset 9, « Ses disciples lui demandèrent ce que signifiait cette parabole. Il répondit, « Il vous a été donné de connaître les mystères du royaume de Dieu, mais pour les autres, cela leur est dit en parabole, afin qu'en voyant, ils ne voient point, et qu'en entendant, ils ne comprennent point. » Et puis, il va commencer à expliquer cette parabole, donc à ses disciples, mais pas à tout le monde. Et je voudrais justement parler un peu du royaume de Dieu. Les évangiles utilisent deux termes à ce propos. Tantôt on voit royaume de Dieu et tantôt on voit royaume des cieux. Donc certains ont vu dans ces deux termes une signification différente. On utilise l'un ou l'autre. Ces deux expressions se retrouvent une centaine de fois dans le Nouveau Testament. Et il n'y a que Matthieu seul qui va employer le terme « royaume des cieux ». Il va l'utiliser une trentaine de fois, 32 fois exactement, dans son évangile. Nous verrons la raison. Y a-t-il une différence selon qu'on utilise l'une ou l'autre expression? Nous pouvons constater dans les mêmes passages utilisés par Marc, par Luc, donc ce qu'on appelle les évangiles synoptiques, donc Matthieu, Marc, Luc, on va trouver le terme royaume de Dieu chez Marc et chez Luc, tandis que Matthieu va utiliser royaume des cieux dans les mêmes passages. Donc dans les mêmes passages. Et les exemples ne manquent pas, je vais juste en prendre deux ici, mais on pourrait multiplier des exemples. Lorsque Jésus va commencer son ministère, il va souvent dire « le royaume de Dieu est proche ». Donc Marc va reprendre cela, « le royaume de Dieu est proche ». Tandis que Matthieu lui va dire « le royaume des cieux est proche ». À un moment, on va parler, Jésus va dire « laissez venir à moi ». Les petits enfants, hein, ne les en empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. Marc et Luc diront, utiliseront cette expression, le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. Tandis que Matthieu, en prenant le même contexte, le même fait, il va dire, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. On pourrait continuer comme ça les exemples. Donc, on voit par là que il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de différence entre le royaume de Dieu et le royaume des cieux. Certains ont voulu dire le royaume de Dieu c'est ceci, le royaume des cieux c'est cela. En fait, il n'y a pas de différence. On le voit ici dans le contexte que ça veut dire la même chose. Alors, pourquoi Matthieu utilise-t-il un autre terme que Luc et Marc? Il faut tout simplement comprendre que Matthieu, l'évangile de Matthieu est le premier des quatre évangiles qui a été écrit et que Matthieu a écrit son évangile premièrement dans le but de destiner cet évangile aux Juifs, hein, aux Juifs de son temps. Et comme nous le savons, les Juifs évitaient de prononcer le nom de Dieu, par respect, et après c'est devenu même pratiquement de la superstition, hein, qu'on n'osait même plus utiliser le mot Dieu. Donc, on le remplaçait chaque fois par autre chose. Ainsi, on va le remplacer par Adonai, hein, qui veut dire Seigneur. Et Matthieu, ici, va utiliser ce qu'on appelle un euphémisme en disant « royaume des cieux », au lieu de dire « royaume de Dieu ». Il va le faire intentionnellement pour ne pas choquer donc les Juifs de son temps et ceux qui liront donc son évangile. Et il va mettre à la place le mot « cieux », puisque les cieux représentent la présence de Dieu. Donc, ça atténue un petit peu cette confrontation de dire « Dieu ». Hein, c'est comme aujourd'hui, au lieu de dire la maison ou la résidence du président d'Amérique, on dira la Maison Blanche. Hein, le président français, sa résidence doit dire l'Élysée. Donc, ainsi de suite. Donc, c'est ce qu'on peut appeler donc un euphémisme. Et alors que l'on dise royaume de Dieu, royaume des cieux, on parle de la même chose. Il n'y a donc aucune différence à ce niveau-là. Voilà, ça c'était un petit peu l'introduction. Alors on pourrait se demander pourquoi Jésus parle du royaume de Dieu. Jésus a parlé du royaume de Dieu tout simplement parce que nous oublions très souvent que ce monde est soumis au diable. Ça, on a tendance à l'oublier, même en tant que chrétien. On l'oublie. On sait que Dieu règne au-dessus de tout, mais on oublie que le monde est soumis au diable. C'est le diable qui gouverne ce monde. Ça, on a tendance à l'oublier, même étant chrétien. Ce monde est gouverné par le diable. Pourquoi ? Parce que l'homme lui a conféré son autorité en désobéissant dans le jardin d'Éden. Souvenez-vous que lorsque Dieu a créé l'homme et la femme, l'a placé dans le jardin, Dieu leur a donné ce pouvoir de pouvoir gérer le monde, de pouvoir gérer la terre, de s'assujettir toutes choses. C'était eux qui devaient gouverner hein, la terre. Mais par leur désobéissance, au moment où le diable va venir vers eux et va leur mentir, Adam et Ève vont plutôt écouter la voix du diable, du serpent, plutôt que d'écouter la voix de Dieu. Par cette désobéissance, ils ont abandonné l'autorité qu'ils avaient reçue de Dieu, et ils l'ont donc conféré au diable. Souvenez-vous aussi que lorsque Jésus va être baptisé, il va être conduit au désert. Après avoir jeûné pendant 40 jours, la parole de Dieu nous dit que le diable est venu vers Jésus. Et il a commencé à le tenter. De différentes manières, il va essayer de faire succomber Jésus, comme il a fait avec Adam et Ève dans le jardin. Ici, il va essayer aussi de conduire Jésus sur une mauvaise voie. Et on le voit dans l'évangile de Matthieu, chapitre 4, verset 8. À un moment, le diable va transporter Jésus sur une montagne très élevée et va lui montrer tous les royaumes du monde et leur gloire. Et le diable va dire ceci à Jésus, « Je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. » Lorsque le diable dit « Je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores », le diable, il a tout à fait raison de dire cela. Pourquoi ? Parce que le monde lui appartient. Je te donnerai toutes ces choses. Toutes ces choses lui appartiennent. Et Jésus, se prosternant devant lui, en adorant le diable allait donner ce pouvoir à Jésus. On voit par là que le monde lui est soumis. Et par là même, on voit que le monde est soumis à l'autorité et au pouvoir du mal, au pouvoir du diable. Et c'est la raison de la venue de Jésus. Jésus va venir maintenant comme le second Adam. Le premier Adam a échoué dans sa mission. Jésus va venir comme le second Adam dans le monde afin de récupérer ce que le diable a volé, afin de restaurer ce que le diable a détruit. D'ailleurs, Jésus dira plus tard, hein, le voleur ne vient que pour dérober et détruire, tandis que lui, en tant que bon berger, il vient donner la vie et la vie en abondance. Donc, le diable est là pour détruire, pour vraiment détruire l'être humain, cet être humain qui a été créé à l'image de Dieu, cet être humain qui a été créé pour vivre dans la joie, dans le bonheur, dans la présence de Dieu, le royaume de Dieu. Le diable est venu s'en emparer, il est venu voler cela et est en train donc de détruire l'homme. Et Jésus, lorsqu'il va venir, il va venir justement restaurer ce royaume de Dieu, ce royaume qui a été détruit par l'homme, hein, en conférant donc son autorité au diable. Jésus, donc, lorsqu'il vient, il vient instaurer donc le royaume de Dieu. En tant que second Adam, le premier Adam a échoué, le second Adam va venir restaurer ce royaume de Dieu. Alors, il n'est pas possible de parler de tous les aspects qui concernent le royaume de Dieu en si peu de temps, parce que c'est tellement vaste, c'est tellement large. Lorsque nous lisons les évangiles, on voit que Jésus va utiliser plusieurs paraboles pour illustrer les différents caractères, les différents visages du royaume de Dieu. Souvent, Jésus, on voit dans les évangiles, parfois il y a toute une série comme ça de paraboles où Jésus commence toujours en disant le royaume de Dieu est semblable à. Et il va avoir comme ça plusieurs paraboles. On va parler du parabole du filet, la parabole des terrains, la parabole du grain de sénévé, de la femme qui pétrit le pain, la parabole de la personne qui découvre un trésor dans un champ, de la parabole des perles, ainsi de suite. Donc, tout cela tourne autour du royaume de Dieu. Et j'irai même plus loin, lorsque Jésus va accomplir des miracles, des guérisons, c'est en quelque sorte aussi des paraboles, hein, lorsqu'il va donc guérir, lorsqu'il va ressusciter des morts, lorsqu'il va délivrer des gens qui sont sous l'emprise du mal, ce sont aussi des paraboles qui démontrent justement le royaume de Dieu. Alors, je disais qu'il y avait plusieurs aspects dans ce royaume de Dieu, plusieurs caractères. Ici, aujourd'hui, je voudrais soulever deux aspects. D'abord, la manifestation du royaume de Dieu. Comment le royaume de Dieu se manifeste-t-il? Jésus sera un jour confronté aux pharisiens, on le voit dans l'évangile de Luc, au chapitre 17, versets 20 et 21. Les pharisiens vont aborder Jésus, vont lui demander: quand viendrait le royaume de Dieu? Jésus va leur répondre: le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper le regard. Le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. On ne dira pas « il est ici » ou « il est là », car il est au milieu de vous. Car il est au milieu de vous. C'est surprenant, cette manière de répondre aux pharisiens. En fait, le royaume de Dieu était déjà là. Les pharisiens ne le voyaient pas. Et ils vont poser la question, quand est-ce que ce royaume viendra? Et Jésus va tout simplement leur répondre, en quelque sorte, le royaume de Dieu, il est déjà là. Il est déjà là, mais il n'y vient pas de manière à frapper le regard. Tout le monde ne peut pas le voir. Tout le monde ne peut pas le saisir. Et c'était le cas justement des pharisiens. C'était le cas de beaucoup de personnes à l'époque, lorsque Jésus est venu manifester le royaume de Dieu. Pour les Juifs qui étaient dans l'attente du Messie, ils s'attendaient à un Messie qui vienne et que ce soit un Messie glorieux, un Messie conquérant, un Messie qui allait être vu de tout le monde par sa façon d'être, par sa façon de faire. Mais Jésus va venir comme un simple homme. Il va venir comme quelqu'un qui n'a aucun pouvoir, comme si c'était quelqu'un qui n'avait aucune autorité, comme si c'était quelqu'un, un homme du peuple. Et il ne va pas venir comme un conquérant. Et Jésus ne va pas être reçu, il ne va pas être reconnu comme le Messie. Pourquoi? Parce qu'il est trop simple. Parce qu'il ne vient pas comme un roi, il ne vient pas comme un gouverneur, il ne vient pas comme un chef, mais un simple homme. L'Épître aux Philippiens nous le démontre, hein, au chapitre 2, il est venu comme un simple homme, il s'est humilié au-delà même de ce que pouvait s'humilier un homme. Il s'est rendu esclave. Les Juifs ne s'attendaient pas à un tel Messie. Et ils voulaient un guerrier, quelqu'un qui vienne les délivrer justement, alors qu'au moment où Jésus vient, Israël est occupé par les Romains. Donc ils sont soumis aux étrangers. Et ils voulaient que quelqu'un, que ce Messie vienne les délivrer de cette tyrannie romaine. Mais Jésus ne va pas faire la guerre aux Romains. Et Jésus ne va pas être accepté comme Messie. Il y avait dans cette frange des pharisiens, ce qu'on appelait les zélotes. C'était donc cette partie extrême, c'est un peu des extrémistes qui voulaient justement, eux, apporter le royaume de Dieu, mais par la violence. Donc, ils s'attaquaient justement au pouvoir romain et ils étaient ainsi en confrontation avec le pouvoir romain par la force, par la violence. Et lorsque Jésus vient, ils croyaient que Jésus allait faire partie de leur groupement. Mais Jésus ne va pas tenir compte d'eux. Bien au contraire, il va les condamner. Il nous a été parlé de Barabbas lorsque Jésus a été crucifié. Et Barabbas était appelé donc un agitateur. On dit souvent que c'était un brigand, mais c'était plutôt un agitateur. Justement, Barabbas devait faire partie de ce groupement des zélotes qui combattaient les Romains. Donc, Barabbas a été arrêté justement parce qu'il combattait le pouvoir romain. Donc, ça vous donne un peu l'image du zélote. Jésus, donc, lorsqu'il vient pour restaurer le royaume de Dieu, il va prendre tout à fait une autre attitude. Il va prendre un autre chemin. Le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper le regard. Même lorsque Jésus va faire des miracles, c'est vrai que beaucoup vont être surpris, mais tous ne marcheront pas sa suite. Pourquoi ? Parce qu'il ne vient pas en s'imposant. L'homme s'attend à ce que quelqu'un vienne dominer sur eux. Jésus ne vient pas pour dominer. C'est pourquoi, à un moment, il va appeler ses disciples, ses frères. Hein? Bien qu'ils soient leur maître, il va les appeler ses frères. Jésus ne vient pas pour dominer. C'est un frère. Et nous voyons donc que les gens, en tant qu'êtres humains, on s'attend toujours à des exploits pour pouvoir accepter, pour pouvoir reconnaître. Et c'est ainsi d'ailleurs que lorsque nous voyons que lorsque l'Antichrist va venir, il va faire des choses si grandioses, faire tomber le feu du ciel, et ainsi de suite, il va avoir une autorité, un charisme, il va... Et beaucoup de gens vont être séduits de cette manière-là. Et il va être reçu comme le Messie, parce qu'il va utiliser une autre manière de faire, que l'homme attend, que l'homme cherche. Mais ici, nous l'avons lu en commençant, il est parlé de mystère, du mystère du royaume de Dieu. Oui, le royaume de Dieu est un mystère, parce qu'il n'y vient pas de manière à frapper le regard. C'est dans la simplicité, c'est dans l'humilité que Jésus va faire son œuvre. Comment peut-on croire à un Messie agonisant? Comment peut-on croire à un Messie qui se laisse enchaîner, qui se laisse moquer, qui se laisse insulter, qui se laisse battre? Comment peut-on croire à un Messie comme ça? Non. Et bien pourtant, c'est le chemin que Jésus a pris pour apporter le royaume de Dieu. Il était là comme un simple homme. Il n'avait même pas une pierre où poser sa tête. Le renard ont leur tanière, les oiseaux ont leur nid. Jésus n'avait pas un lieu. Le Messie n'avait pas un lieu pour pouvoir dormir. Il n'avait pas un lieu pour pouvoir se reposer. L'humilité, la simplicité. C'est ainsi que se manifeste le royaume de Dieu. Un autre aspect que je voudrais soulever dans ce royaume de Dieu, c'est comment entrer dans le royaume de Dieu. L'entrée dans le royaume de Dieu. Il est dit dans Matthieu 11, verset 12, que le royaume de Dieu est forcé. Le royaume des cieux est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Ce sont les violents qui s'en emparent. Je vous ai parlé ici des zélotes qui utilisaient la violence pour pouvoir justement restaurer le royaume de Dieu. Ce n'est pas, lorsqu'on parle de violence ici, ce n'est pas de cette violence-là qu'il s'agit. On ne demande pas d'aller combattre. On ne demande pas de commencer une guerre avec les hommes. Non. Lorsqu'il nous est parlé ici de la violence, c'est cette violence, je dirais, spirituelle. Nous n'avons pas à combattre la chair et le sang, mais à combattre les dominations, les pouvoirs, les autorités qui sont dans les lieux célestes. Je le disais en entrée aussi que le monde a été soumis au diable, eh bien, c'est contre ça que nous devons user de violence. Nous devons combattre l'adversaire de nos âmes. Nous devons combattre le diable. Et cette façon de combattre l'adversaire, le diable, ce n'est pas entrer dans une guerre, c'est tout simplement s'opposer au mal. Comme Jésus, lorsqu'il a été tenté, le diable est venu vers Jésus. Jésus a combattu le diable par la parole de Dieu. Jésus n'a pas pris des armes. Jésus n'est pas entré dans des palabres. Il a dit tout simplement, il est dit dans la parole. Et lorsqu'il nous est dit, si ce sont les violents qui s'emparent du royaume de Dieu, c'est que justement nous devons aussi combattre de cette même manière. Nous devons nous tenir fondés sur la parole de Dieu et faire face aux tentations, faire face à ce que le diable nous présente. Le diable a présenté des choses à Jésus. Jésus les a refusées en s'appuyant sur la parole de Dieu. Et le diable viendra aussi vers nous en nous proposant ceci et cela. À nous de lui dire non, parce qu'il est écrit que nous devons revenir et nous appuyer sur cette parole et s'opposer au diable. La violence que nous devons user envers l'adversaire, c'est cette opposition à ce qu'il nous présente. À un moment, il y a ce jeune homme riche qui va venir vers Jésus et il va lui poser la question, que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle? Jésus va parler avec lui, nous connaissons l'histoire, et Jésus va lui donner une réponse, il dit, va, vends tout ce que tu possèdes et reviens et suis-moi. Que va faire le jeune homme riche? Il va peser la situation et pour lui, ça va être trop dur de pouvoir céder ce qu'il a. Ça sera trop dur pour lui. Et il nous est dit que le jeune homme riche, il est parti tout triste. Il est parti tout triste, pourquoi? Parce qu'il n'a pas pu se détacher de ce qu'il avait. Non pas que les richesses qu'il possédait étaient mauvaises. Ce jeune homme riche aurait pu garder les richesses qu'il avait. Le seul problème était que l'attachement de son cœur n'était pas à Dieu, mais le cœur était attaché à ses richesses, à ses choses matérielles. C'est là que le problème se posait. Dieu a béni énormément de personnes. Il a béni Job, il a béni Abraham, il a béni tous les patriarches. Il a béni beaucoup de personnes. Il n'y a aucun mal à être riche. Mais il est très mauvais de faire passer ses richesses avant Dieu. Et c'est ce qui s'est passé ici avec le jeune homme riche. Tant que nous nous attachons aux choses de ce monde, il est impossible d'entrer dans le royaume de Dieu. Il est impossible. D'ailleurs, Jésus va dire à ses disciples, il est plus difficile à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu plutôt qu'à un chameau de passer par le trou d'une aiguille. Hein? Le trou d'une aiguille, ce n'est pas l'aiguille qu'on coud avec. Hein? Ce n'est pas de cela qu'il s'agit. L'aiguille, c'était une petite fenêtre qui se trouvait au-dessus des portes, donc en ce temps-là, donc en Israël. C'était une des toutes petites fenêtres. Et Jésus va prendre encore cette parabole, en quelque sorte. Le chameau est capable de passer par cette petite fenêtre, tandis qu'un homme riche est incapable d'entrer dans le royaume de Dieu. Pour entrer dans le royaume de Dieu, c'est vraiment une porte qui est resserrée. C'est un chemin étroit où on ne peut pas venir avec toutes les choses sur notre dos, des choses qui nous incommodent. Des choses, on veut prendre ceci, on veut prendre cela pour entrer dans le royaume de Dieu. Le passage est étroit. On ne pourra pas passer. On ne pourra pas passer avec toutes nos casseroles. Ça ne sert à rien. Ces choses-là ne font pas partie du royaume de Dieu. Ce que Dieu veut, c'est tout simplement notre cœur. Pour entrer dans le royaume de Dieu, c'est un espace qui est très, très réduit et c'est juste l'endroit pour que notre cœur puisse passer. Dieu n'a besoin d'autre chose. Il a besoin uniquement de notre cœur. Et le passage, c'est juste la place du cœur. Si nous apportons autre chose dans notre cœur va être trop gros et ne pourra pas passer par ce passage étroit. le passage, donc l'entrée dans le royaume de Dieu, dépend de tout cela. Tant que je me démarque de l'enseignement du Seigneur, tant que je me démarque de sa volonté, de sa justice, je ne peux pas entrer dans le royaume de Dieu. C'est pourquoi l'apôtre Paul dira à sa manière, « Travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. » Le problème, c'est qu'en tant que chrétien, on dit « Ah, je suis sauvé, donc sauvé une fois, sauvé toujours. » Nous devons faire attention, frères et sœurs. Et c'est l'exhortation que je nous apporte aujourd'hui. Nous devons faire attention. Sauvé une fois, sauvé pour toujours, je ne pense pas. Nous devons travailler à notre salut avec crainte et tremblement. Pourquoi ? Parce que même si nous avons été sauvés, même si nous avons rencontré le Seigneur, il y en a un qui ne lâche pas prise. Même s'il sait que nous ne lui appartenons plus, il essaie toujours de nous récupérer. Et d'une manière ou d'une autre, il va essayer chaque fois de nous présenter quelque chose que nous allons prendre et cette chose-là nous empêchera peut-être d'entrer dans le royaume de Dieu. Je le répète encore, le passage pour entrer dans le royaume de Dieu, c'est juste la place de notre cœur. Un cœur pur, sans autre chose. S'il y a autre chose dans ce cœur, il n'y a plus de place. Il n'y a plus de place. Le royaume de Dieu est forcé. Il est forcé. Donc, pour entrer, il faut vraiment se battre. Il faut lutter. Bien sûr, en comptant sur le Seigneur, il n'y a que lui qui peut nous venir en aide. Il n'y a que lui qui peut nous aider à pouvoir marcher à sa suite. Il n'y a que lui qui peut nous secourir lorsque nous sommes atteints, lorsque l'adversaire essaie de nous faire trébucher. L'attachement aux choses du monde, c'est quelque chose qui peut justement nous empêcher d'entrer vraiment dans le royaume de Dieu. Si quelque chose d'autre prend la place de Dieu dans ma vie, je ne peux entrer dans le royaume de Dieu. Il y a aussi cette image de la femme de Lot, et je terminerai par là. Dieu va sauver Lot et sa famille dans Sodome et Gomorre suite à l'intercession d'Abraham. Si Abraham n'avait pas intercédé en sa faveur, Lot allait périr dans Sodome et Gomorre. Pourquoi ? Parce qu'il a fait justement ce choix d'aller dans Sodome et Gomorre. Cette nation, cette ville qui était corrompue. Il nous est dit dans les épîtres, dans l'épître de Pierre notamment, que Lot tourmentait son âme au vu de ce qu'il vivait. Mais Lot était un petit peu ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui le chrétien partagé. Tantôt il est avec le Seigneur, tantôt il est avec le monde. Lot, au départ, lorsque nous lisons sa vie, au départ, il n'était pas dans Sodome et Gomorre, mais il s'était mis à la frontière, à l'extérieur de la ville. Mais plus tard, les années ont passé, et pour finir, on voit que Lot était dans la ville. Il est entré dans la ville. Et non seulement il est entré dans la ville, on dit qu'il était aux portes de la ville, donc ça veut dire qu'il siégeait. C'est devenu un homme important dans la ville. Il a commencé à vivre comme les gens de la ville. Et c'était là le problème, c'était là le danger. Au lieu de sortir de ce milieu-là. Et on voit que Lot était tellement loin dans cette vie que sa femme, elle, était complètement, complètement dedans. Lorsque les anges viennent le sortir de là, ils sont obligés de le presser. Il ne veut pas sortir. Ils sont obligés de le presser. Et là, il y a encore un commandement du Seigneur. Lorsque tu quittes Sodome, ne te retourne pas. Regarde devant toi, regarde où tu vas, ne te retourne pas. Mais on voit que Madame Lot a du mal à lâcher, a du mal à abandonner ce qu'elle possédait dans Sodome. Elle va se retourner et elle va devenir une statue de sel. Elle n'a pas pu être sauvée. Elle était tellement attachée à sa vie passée. C'est pourquoi, si nous voulons entrer dans le royaume de Dieu, frères et sœurs, le Seigneur nous appelle à regarder devant nous, à regarder devant le Seigneur, et non pas à regarder à notre vie passée, non pas à regarder à gauche ou à droite où le diable nous présente tantôt ceci, tantôt cela. Regardons devant nous où le Seigneur est cloué sur la croix et il dit « Je suis venu pour te sauver ». Je suis venu pour te délivrer. J'ai payé le prix pour toi. Aujourd'hui, tu m'appartiens. Je ne suis plus esclave. Je n'appartiens plus au diable. Donc, je n'ai plus à écouter sa voix, mais à écouter plutôt le Seigneur. C'est ainsi qu'on entre dans le royaume des cieux. C'est parfois, oui, en mordant sur sa chique, hein, je prends cette expression, parce qu'il y a tant de choses, il y a tant de choses qui nous sont présentées. Mais nous devons garder le cap et nous attendre au Seigneur. Voilà, le Seigneur nous aide, que le Seigneur nous aide vraiment à écouter ses paroles, à écouter ses enseignements. Le royaume de Dieu est un mystère, il n'est pas donné à tout le monde. Le Seigneur nous a fait la grâce pour que nous puissions comprendre ses paroles, pour que nous puissions comprendre son enseignement. Et c'est une grâce que le Seigneur nous fait. Ça n'a pas été donné à tout le monde. Quand Jésus était là, il y avait que ses disciples qui ont été mis à part pour cela. Le Seigneur nous a fait grâce aujourd'hui aussi de faire partie de ce groupe où nous pouvons saisir ces choses. Et Jésus dira, Père, je te loue, je te rends grâce de ce que tu as caché ces choses aux sages, aux intelligents, et tu les as révélées aux enfants, tels que nous. Si nous ne sommes pas comme des enfants, si nous n'avons pas non plus cette humilité comme des enfants, nous ne pouvons pas entrer dans le royaume. Que Dieu nous fasse grâce, frères et sœurs. Amen.
Amen.
Seigneur notre Dieu et notre Père, nous te bénissons pour la parole que nous avons entendue. Merci de nous rappeler que le royaume des cieux est là. Il est présent. Merci de nous rappeler que nous devons avoir le cœur attaché à toi et non dans le monde, pour que nous ne soyons pas dessus à la fin de temps, comme fut, n'est-ce pas, la femme de Lot. Mais donne-nous, Seigneur, à tenir ferme. Et donne-nous, Seigneur, à continuer à regarder à toi. Parce que c'est toi seul qui es capable de nous tenir par la main, pour que nous ne chancelions pas et que nous ne tombions pas. Nous voulons te prier, Seigneur, pour la situation du monde, te prier pour ce que nous sommes en train de vivre. Nous prions que toi seul, Seigneur, tu interviennes. Tu vois, Seigneur, nous nous réjouissons déjà que le corona était à la fin. Mais maintenant encore, vous voyez, Seigneur, les rebondissements. Nous prions que toi seul, qui es Dieu, que tu interviennes pour ta seule gloire. Nous voulons nous réjouir en toi, parce que tu es notre papa qui agit. Nous voulons te prier pour Bernard, Seigneur, toute la famille, pour que tu les consoles, que tu essuies leurs larmes, Seigneur, que tu leur viennes en aide. Merci, parce que sans toi, ils ne peuvent pas vivre dans la paix. Mais c'est toi qui donnes la paix, parce que tu es le prince de la paix. Que ta grâce, ô Dieu, soit sur nous. Prions ensemble comme le Seigneur nous a appris en terminant notre moment de prière. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié,
que ton
règne vienne, Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui le pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent
le règne, la puissance,
la gloire, au siècle des siècles.
Amen.